Santé.
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 C'est bon pour la santé.
Faire du sport.
C'est bon pour la santé.
Les carottes.
C'est bon pour la santé.
Boire. Rire.
Bien dormir.
Bouger. Faire de l'exercice.
C'est bon pour la santé.
Puis on vieillit bien à part de ça.
Manger des fruits.
Mangiamo les spaghetti.
Une ou deux gorgées d'eau toutes les heures.
C'est meilleur pour la santé, oui.
Bon début d'après-midi, Marianne Paquette au micro pour vous accompagner au cours de ces 30 prochaines minutes à travers cette émission de C'est bon pour la santé sur Canal M. En début de semaine, le Conference Board du Canada publiait un rapport intitulé « Améliorer les habitudes de vie, des retombées importantes pour la santé et l'économie du Québec » qui, comme le titre l'indique bien, a servi à évaluer l'impact sur la santé et l'économie du Québec si on arrivait à réduire la prévalence de certaines maladies chroniques bien présentes dans notre population et aussi à diminuer les facteurs de risque qui sont associés à ces maladies-là. En deuxième partie d'émission, Louis Thériault, lui qui est vice-président des politiques publiques au Conference Board du Canada et qui est aussi l'un des auteurs de cette très corpulente étude, ben, il sera là pour tenter de nous vulgariser tout ça et de nous parler de ce rapport. Mais d'abord, on dit souvent que être parent, ça vient pas avec un mode d'emploi. Hein. Ça vient, j'imagine, avec d'autres choses, comme je ne suis pas maman, hein, vous le savez, mais j'imagine, quand j'y pense un peu, que ça vient avec des doutes, des questionnements, de la fierté aussi, de la fatigue. Ça s'apprend sur le terrain, par essai et erreur, ça demande de l'humilité, de l'amour, de l'humour, de l'écoute. Mais parfois, on a besoin d'un petit peu d'outils pour nous aider. J'en ai un à vous proposer. C'est un bouquin qui s'intitule « Apprivoiser la vie de parent, la famille dans tous ses états ». C'est écrit par Marie-Josée Filion, elle qui est ergothérapeute. Je vous la présente dans quelques instants. Bonjour Marie-Josée.
Bonjour.
Votre livre, je l'ai trouvé fort intéressant d'ailleurs.
Merci.
Il s'adresse bien sûr à de nouveaux parents hein, parce que c'est souvent quand ça arrive pour la première fois un bébé qu'on se dit « OK, il faut que j'apprivoise ça, moi, la vie de famille ». Mais ce que j'ai apprécié par-dessus tout, c'est qu'il s'adresse aussi à des parents qui ne sont pas nécessairement de nouveaux parents, mais qui ont de nouveaux défis dans leur vie ou de nouvelles difficultés. Je pense ici à des enfants qui sont malades ou ont différents handicaps ou encore un proche de la famille qui a une maladie. Et là, ça bouleverse l'environnement familial. Également l'adolescence, cette fameuse période-là, on n'y échappe pas. Ou encore, ben, si on a changé de pays, donc l'intégration là, de nouveaux arrivants. Mais en même temps, Marie-Josée, et je vous cite, vous dites dans votre livre, « La recherche de la bonne méthode pour élever les enfants est un leurre, une vaine quête. » Donc, il n'y en a pas de bonne méthode, finalement.
Bien, je pense qu'il n'y a pas une bonne méthode. Il y a plein de pistes de réflexion. Il y a plein d'outils qu'on peut développer, mais il faut tenir compte de l'enfant. Il faut tenir compte du parent. Alors, on a chacun notre...
Et du contexte.
Et du contexte aussi. Alors, je pense que plus on est outillé, plus on a de la souplesse dans les moyens qu'on peut utiliser, plus c'est facile comme parent.
Mm-hmm. Ce qu'il y a de très intéressant, et votre livre débute ainsi, c'est que c'est important de se connaître pour jouer un bon rôle de parent. Mais en même temps, souvent, quand on amorce le projet d'avoir un bébé, on ne pense pas nécessairement à ça. De se dire, OK, il faut que j'apprenne à mieux me connaître, à voir ce qui s'est passé dans ma vie familiale quand j'étais enfant, mes valeurs, mes rêves. Pourquoi c'est important, d'abord, Marie-Josée Filion?
Bien, je pense que c'est un peu comme se faire un plan de match, être parent. C'est sûr qu'effectivement, comme tu dis, on ne pense pas à ça dès le début, mais on s'aperçoit avec les années que les questions viennent. Quelles sont mes forces? Quels sont mes défis? Où je veux aller? Puis d'où je viens? Alors, c'est pour ça que je disais, si on regarde notre héritage familial, puis qu'on se demande qu'est-ce qu'on a aimé dans notre famille, qu'est-ce qu'on a moins aimé, qu'est-ce qu'on veut reproduire, qu'est-ce qu'on veut surtout pas reproduire. On a aussi connu des familles, tout le monde avait une famille parfaite autour de chez eux, hein, à l'école.
Le voisin.
Mais oui, comme je dis dans mon livre, les fameux « l'heureux ».
Oui, le gazon vert.
Le gazon vert. Alors, je pense que c'est important de s'alimenter, de regarder autour, de regarder notre culture aussi, parce que, bon... La société est de plus en plus variée, mais même pour des gens qui sont nés ici, il y a toutes sortes de sous-cultures. Alors, regardez quelles étaient les priorités chez nous, dans notre milieu. Je pense que ça peut nous aider à se faire un...
Et il y a quelque chose aussi que vous soulignez, en parler avec notre conjoint ou notre conjointe, voir un petit peu, est-ce qu'on a les mêmes valeurs, nous? Est-ce qu'on voit ça de la même façon, l'éducation de notre enfant?
Oui, puis en parler avec notre conjoint, mais dans le fond, je mets des exercices, là, des questions auxquelles je propose aux gens de répondre, parce que on peut être tous les deux pour le respect, mais ça ne veut pas dire que ça va se vivre de la même façon, qu'on va le percevoir de la même façon. Alors, c'est beaucoup, beaucoup d'ajustements au quotidien. Alors, mm-hmm. au moins, si on a identifié nos valeurs, ben, ça nous donne déjà un petit pas de fait.
Justement, parlons-en de ces outils-là, parce que votre livre, il est construit comme ça, en fait. Chaque chapitre, chaque partie du livre, il y a bon, une thématique, bien sûr, d'aborder et des outils qui sont livrés très, très concrets. Et ça commence comme ça, c'est-à-dire apprendre à se connaître. Donc, on peut peut-être déjà, d'entrée de jeu, lancer des petits outils comme ça pour déjà identifier aux parents, aux futurs parents qui nous écoutent, comment ils peuvent le faire.
C'est sûr que dans le tourbillon de la vie, on n'a pas tout le temps, on prend pas tout le temps le temps de réfléchir, puis on est plus action-réaction. Alors, quand on a l'occasion de s'asseoir, moi, je parle de se faire un petit cahier de réflexion, un cahier d'apprentissage, ça nous fait un outil qu'on peut revoir. Alors, on peut se demander, bon, est-ce qu'il y avait des démonstrations d'amour, de tendresse chez nous, dans ma famille? Moi, est-ce que mes parents avaient des échanges à ce niveau-là? Est-ce que la différence était acceptée chez nous? Est-ce que il y avait des règles très, très strictes? Est-ce qu'il n'y avait pas de règles? Est-ce que... Alors, toutes ces questions-là, ça
est-ce
nous...
Est-ce qu'il y avait du racisme ou de
tout
l'homophobie?
À fait. C'est ouais, ça. Ouais. Tout ça, ça nous permet de réfléchir puis de pas, je dirais, adopter inconsciemment tout ce que nos parents nous ont transmis.
Ouais.
Il y a bien des choses qui sont fort intéressantes, mais des fois, il y a un petit bémol à mettre.
Ouais. Oui, puis c'est toujours dans l'optique d'encourager le jugement du parent, d'être ouvert à différentes façons de faire, donc des façons qui sont différentes de ses propres parents, mais en y allant avec sa propre personnalité et son propre tempérament.
Tout à fait.
Oui. Les attitudes parentales, c'est quoi ça, Marie-José Filion?
Excusez-moi. Les attitudes parentales... Bien, c'est notre façon d'agir, dans le fond, avec nos enfants, selon la personnalité qu'on a. Si je suis quelqu'un de plus rêveur, si je suis quelqu'un de très sportif, si je suis quelqu'un qui réagit vite, quelqu'un qui est très posé, ça va influencer. Alors, si on sait quel est notre type de réaction, notre type d'attitude, on va pouvoir regarder les côtés positifs et les côtés négatifs de ça.
Mm-hmm.
OK? Si je suis quelqu'un de très, très organisé, c'est une belle force, surtout comme parent, mais... Le défaut de ça, ça peut être de devenir rigide.
Il ouais.
faut que tout soit fait au quart de tour, puis tout ça. Alors, quand on est conscient des deux, on n'a plus de souplesse, je dirais.
Mais en même temps, c'est intéressant parce que c'est une façon d'identifier une force et de déjà prévoir, quand on fait cela, là, et de déjà dire, ben, peut-être que ma faiblesse, je vais la rencontrer là.
Oui, tout à fait.
Ouais. Il y a un autre outil que je trouvais très intéressant dans votre livre, Marie-Josée, parce qu'il y en a différents. Vous en livrez différents. C'est l'humour. Et vous dites, même, parce que vous êtes maman, il faut le dire.
Oui.
Vous êtes ergothérapeute. Bon, vous avez beaucoup, beaucoup d'années d'expérience derrière la cravate, mais vous êtes également maman. Donc, vous l'avez vécu, ce terrain-là. Et vous vous dites, à un moment donné, il y a eu Bonbonne qui est apparu. C'était qui, Bonbonne, ça?
C'était Bobonne.
Bobonne.
Bobonne. Bobonne, c'était mon allié. Par exemple, quand on fait un repas, puis que les adolescents arrivent, puis évidemment, ils ont 3 minutes et quart pour manger. Moi, j'ai pris une demi-heure pour faire un repas. C'est un peu décevant. Le temps de servir tout le monde, ils ont fini, ils s'en vont. Alors, je me parlais moi-même, je me soignais. Alors, je leur disais, je me disais, merci, Bobonne, pour le bon souper. C'était un peu, pour les plus vieux, la Violette de Jeanne Bertrand. Alors, là, les enfants disaient, ah, oh, ouais, c'était bon, maman. Bon, ben, c'était une façon de. Plutôt que de faire une remarque négative, sérieuse, c'est une façon d'envoyer mon message, mais de façon acceptable.
Oui. Un peu comme l'outil que vous donnez de se dire qu'on est le voisin qui observe la situation.
Ah oui, ça sauve.
Ouais.
En fait, c'est une psychologue qui m'avait dit ça à l'adolescence de mes enfants, parce que c'est pas parce que j'ai écrit un livre que mes enfants ne pourraient pas vous expliquer toutes mes limites. Mais quand je venais pour m'emporter et que je m'enfargeais... Dans quelque chose, il y a une psychologue qui m'avait dit, regarde, monte au balcon. Imagine-toi que tu es la voisine sur ton balcon, puis regarde ça. Ben des fois, c'était moins dramatique.
Oui. Puis vous arriviez à en rire. Ça, c'est un outil formidable.
Des fois.
Des fois.
Des fois, je manquais mon coup.
Bon, bien sûr, d'autres trucs. J'y vais en rafale parce que le temps file, bien sûr. Favoriser la collaboration de ses enfants, qui est un autre outil assez formidable. Comment on pourrait l'expliquer, ça, Marie-Josée?
Je pense que c'est beaucoup une question d'atmosphère. Il faut aller chercher le positif de ce que nos enfants font. Se mettre dans leur peau aussi. Leur expliquer notre ressenti. Mon mari disait, arrête de parler puis agis.
Il disait ça à vous ou aux enfants?
À moi.
OK.
Alors, je pense que exprimer calmement, là, je reviens de travailler, j'ai eu une grosse journée et j'ai mal à la tête, pourrais-tu baisser le son? Mm-hmm. Ça va mieux que t'arrêtes pas de mettre ça trop fort, puis tu penses jamais à moi, puis t'as. Mm-hmm. On dit en psychologie des enfants, le tu, ben, pas juste des enfants, le tu ouais. tue la relation. Alors, ouais. expliquer calmement, en parlant de soi, ce qu'on vit. OK? Répondre positivement le plus possible. Maman, veux-tu venir me reconduire chez une amie, tout ça? Il y a des périodes où on devient un peu exaspéré, puis on a juste le goût de dire non à tout. Alors, une façon de faire peut être de dire, bien sûr, je vais y aller dès que le lave-vaisselle va être vidé.
Ah uh-huh. mm-hmm.
Alors, on dit le oui et on tente de dire le moins possible de non. Mais quand on le dit, c'est un non ferme.
Oui. Il y a aussi l'exemple, et si je ne me trompe pas, c'est bien dans votre livre, du petit garçon à qui on demandait de garnir la table.
Oui.
Et puis, ce n'était pas toujours facile. La maman avait employé une bonne stratégie à cet effet-là, hein?
Oui, puis l'avantage de cette stratégie-là, c'est que c'est, on l'appelle la méthode de résolution de conflits. C'est utilisé dans les milieux de travail, en couple et tout ça. Alors, cette approche-là, c'est de dire, bon, on se met à deux, on a un problème. Toi, t'es pas content que je sois choqué parce que tu mets pas la table, puis moi, je suis pas contente que la table soit mise. Alors, on a un problème. La deuxième étape, c'est on dit, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Et là, on laisse l'enfant parler. C'est sûr qu'il n'y aura pas nécessairement... la réponse qu'on veut. Mais élever des enfants, c'est faire des compromis, c'est s'adapter. Alors, dans le livre, je dis que le petit Étienne avait proposé de mettre la table pendant les annonces.
Oui, parce qu'il écoutait la télé. C'est ça le problème. Oui. Mm-hmm.
Puis ça a l'air évident, là, après coup. Mais prendre le temps des annonces, dire Étienne, viens commencer à mettre la table. Étienne retournait. Et à la fin, ben, tout le monde n'était plus de bonne humeur. Alors ça, c'est... puis on peut le faire avec des adolescents aussi.
Et la solution venait de l'enfant.
Alors, c'est ça.
Mais la mère... avait mis quand même la limite de dire, ben, si tu n'arrives pas à combler ta tâche avec ta proposition, ben, c'est moi qui vais amener une proposition et on va s'en tenir à ça. Donc, c'est dès que tu arrives de l'école, tu le fais.
Cette attitude-là, ça motive son petit homme, hein?
Ben oui, ou sa petite fille. Et bon, j'imagine qu'après, les conséquences peuvent aller en augmentant, c'est-à-dire ben, la télé fermée avant l'heure du repas ou tout ça, là. Mais ouais. Avant d'arriver, il y a plein de solutions.
Je pense que l'important, c'est que l'enfant, à ce moment-là, il se sent collaborateur, il se sent impliqué. Puis souvent, face à ces petits problèmes du quotidien-là, que ça soit fait comme ci ou comme ça, ce qu'on veut, c'est que ce soit fait. Mm-hmm. Alors, on lui donne un petit peu de pouvoir sur la situation.
L'autonomie aussi, c'est assez important parce que c'est pas mal le cadeau qu'on veut faire à la naissance de nos enfants. Là, on veut qu'ils soient autonomes, oui. C'est ce qu'on souhaite. Des petits trucs pour favoriser ça?
Je pense qu'il faut... Dans le fond, les enfants apprennent en explorant.
Mm-hmm.
Moi, je suis un peu en rébellion contre les petits sièges de bébé dans lesquels on laisse toujours le bébé installé avec des petits jouets au-dessus de la tête. C'est bien, puis il y a des moments où c'est utile. Mais je trouve qu'il n'y a rien qui va remplacer une bonne couverture à terre, puis l'enfant se tourne, roule, essaye d'attraper un coin et tout ça. Alors, pour développer son autonomie, il faut le laisser explorer. Mm-hmm. Le tout petit qui pleure dans son lit, souvent, si on attend qu'il finisse de pleurer, maman, il se met à gazouiller, puis il est en train de jouer avec son coin de couverture et tout ça. Alors, puis les plus grands aussi, il faut les laisser explorer, OK? Répondre à leur pourquoi. Ça mm-hmm. vient tannant. Ouais. Pourquoi? Mais souvent, c'est de leur relancer la question. Pourquoi penses-tu? Alors, à ce moment-là, ça nous permet de savoir où ils en sont. Je vois des mamans, quand je suis à la maison des parents, Saint-Laurent, je vois des mamans qui veulent montrer à dessiner à leur enfant, mais un enfant de 2 ans, ils essaient de lui montrer à faire un bonhomme. Mais l'enfant de 2 ans, il n'a pas du tout une pince pour s'index, il y a des mouvements grossiers, mais il faut le laisser développer ses acquis-là.
Parce qu'il est rendu là.
Oui, mm-hmm. c'est ça.
Oui. Et ça nous permet aussi des fois de réfléchir parce qu'on n'a pas toutes les réponses.
Non, on n'a pas toutes les réponses. Même avec des grands, on n'a pas toutes les réponses.
Je le disais tout à l'heure, il y a des parties qui m'ont principalement interpellée dans votre livre. Je rappelle le titre, « Apprivoiser la vie de parents, la famille dans tous ses états ». C'est publié au CHU Sainte-Justine. À savoir, quand on vit avec un enfant malade ou encore handicapé, comment on peut développer des stratégies pour s'adapter?
Bon, je parle de Charlotte dans mon livre, dont je trouve les parents très extraordinaires. Si je me réfère un peu à eux et à d'autres parents, un des éléments de base, c'est de bien connaître la maladie de notre enfant.
Oui.
Bien connaître. Moi, j'ai rencontré des parents qui étaient bien plus connaisseurs que moi d'une maladie parce qu'eux, ils avaient une maladie à connaître. Moi, j'en avais tout plein. Alors, bien connaître, expliquer clairement à l'enfant et aux autres enfants. C'est pas toujours évident, mais les enfants sentent, hein, même s'ils sont tout petits, même s'ils sont plus grands, ils sentent beaucoup l'atmosphère de la maison. Alors, leur expliquer, les impliquer dans leur traitement. Comment veux-tu qu'on s'y prenne? Je pense à une petite fille asthmatique qui devait avoir un nébulisateur la nuit et la maman avait réussi à mettre une belle musique de Mozart, la petite musique de nuit de Mozart. Et elle, maintenant, qui est jeune adulte, se rappelle... C'était pourquoi tu mettais cette musique-là? Alors, on a transformé un moment pénible en une belle petite complicité.
Mm-hmm.
Ça peut être d'impliquer les autres enfants dans la recherche de solutions, puis de laisser tout le monde exprimer ce qu'il vit. C'est important. Hein? Dire qu'un enfant qui dit qu'il est tanné que son frère soit malade, bien, si on le rabot en lui disant dis pas ça, c'est pas fin, bien, je pense qu'il vaut mieux lui dire ben oui, qu'est-ce qu'on fait avec ça?
Mm-hmm. Et prendre du temps aussi avec les enfants qui sont pas malades.
Oui.
Des fois, au détriment, ou peut-être pas au détriment, mais quitte à demander de l'aide à mon oncle, à ma tante, est-ce que tu peux aller à l'hôpital? Et moi, je vais aller passer un après-midi avec les enfants.
Et souvent, les gens sont très contents d'avoir une demande précise. Ils veulent aider, mais ils savent pas quoi faire.
Ouais.
Alors, pourrais-tu, samedi soir, aller à l'hôpital? Moi, je vais faire une petite soirée avec un film puis de la pizza avec les autres. Puis ça va leur faire du bien, ça va les sécuriser.
Oui. Et... de bien connaître la maladie dont il est question, ça aide à demander des objectifs clairs, ou des demandes claires, en fait, plutôt, parce qu'on sait vraiment de quoi il est question et nos besoins à ce
tout
moment-là
à fait, tout à
aussi.
Fait.
Le temps passe très, très vite. C'était intéressant aussi le passage où comment on peut expliquer quand grand-papa ou grand-maman change parce que, oui, il y a la vieillesse, mais parfois, il y a la maladie Alzheimer, Parkinson, par exemple. Comment on peut expliquer simplement aux enfants, et sans non plus qu'ils s'éloignent de leurs grands-parents ou tout autre adulte proche et signifiant?
Je pense des outils très faciles qu'on a, c'est les livres. Si vous allez dans les librairies, j'en ai apporté ici des livres, « Grand-mère alsacois », sur l'asthme, Mathilde fait de l'asthme. Il y a plein de livres qui expliquent bien et c'est des spécialistes qui sont penchés là-dessus. Alors, on va leur laisser leur expertise puis on va en profiter. Dédramatiser aussi. Il faut être conscient de nos émotions, travailler sur nous un peu.
Mm-hmm.
Mais puis, proposer des activités intéressantes. Le grand-papa ou la grand-maman qui fait de l'Alzheimer, il existe des livres pour qu'ils racontent leur vie. On peut prendre des notes. Ouais. Alors, avec un adolescent, on peut dire « Grand-papa, raconte-moi ça ». Bon, peut-être que ça ne sera pas son mariage qu'il va rencontrer, ça va être sa première partie de hockey, mais on part là-dessus. Alors, pour avoir des beaux moments avec ces gens-là, parce qu'on voit qu'ils s'en vont à ce moment-là.
Oui, mais ils ont encore besoin de contact humain.
Le contact, de tendresse, et l'humour. L'humour est toujours...
Oui, ça fait partie beaucoup de votre approche, Marjosée.
J'ai découvert l'humour. Ça.
Oui,
c'était pas inné, mais je me suis sortie du pétrin comme ça, puis... je trouve que c'est quelque chose à développer.
Donc, ça peut s'apprendre, l'humour.
Ben, en tout cas, un peu.
Votre livre « Apprivoiser la vie de parents, la famille dans tous ses états », c'est publié au CHU Sainte-Justine. J'aurais aimé avoir plus de temps parce qu'il y a plein de choses qu'on n'a pas abordées ensemble. Ben, vous reviendrez. Là, est-ce que vous êtes à apprivoiser la vie de grands-parents, Marjosée?
Non, là, je suis à apprivoiser la vie de... pas encore grands-parents, mais j'ai plein de projets. Alors,
oui, d'ailleurs, vous allez souvent au Bénin.
Oui, je vais en Afrique, j'arrive. Là,
vous allez faire là-bas des missions humanitaires.
Oui, c'est ça, en santé mentale.
Ben, merci beaucoup de votre passage à l'émission. Je rappelle que vous êtes ergothérapeute également, auteur de ce livre. Ça a été un plaisir.
Puis je souhaite à tous les parents de savourer leurs petits.
Pour rejoindre Marianne Paquette et l'équipe de C'est bon pour la santé, dans la région de Montréal, 514-282-1999, poste 220, et sans frais ailleurs au Québec, 1-800-361-0635, et par courriel à mpaquette@commercialvusezvoix.com. Suivez-nous sur Facebook, / C'est bon pour la santé, et sur Twitter, @commercial_canal_M.
Bonjour Louis Thibault.
Oui, bonjour
Louis Thériault, pardonnez-moi. Ben oui, je suis en train de vous débaptiser. Par contre, ce que je sais, c'est que vous êtes vice-président des politiques publiques au Conference Board du Canada et également l'un des auteurs de cette étude « Améliorer les habitudes de vie, des retombées importantes pour la santé et l'économie du Québec ». Une étude, comme je le disais tout à l'heure en introduction, assez corpulente qui évalue l'impact sur la santé et également sur les finances, sur l'économie du Québec. Si on arrivait à réduire certaines maladies chroniques qui sont bien présentes au sein de la population québécoise et aussi certains facteurs de risque qui sont associés à ces maladies-là. C'est une étude qui vous a été demandée par la Direction générale de la santé publique du ministère de la Santé et des services sociaux, gouvernement du Québec. C'est quoi d'abord ces 6 maladies-là, Louis Thériault?
En fait, les maladies... Peut-être avant de parler des maladies, ça s'inscrit tous ces travaux dans les efforts de mise en valeur des stratégies de prévention. Donc, on en parle beaucoup, mais les actions sont plus difficiles à mettre en place. Donc, on a regardé dans ce cas-ci les maladies qui sont les plus courantes ou les plus prévalentes, particulièrement dans un contexte de vieillissement. Donc, les maladies cardiovasculaires, les accidents cardiovasculaires, donc arrêt cardiaque et ACV, les maladies pulmonaires obstructives chroniques, donc l'asthme, emphysème, le cancer du poumon est séparé lorsqu'on regarde les maladies pulmonaires. Donc, c'est le quatrième, hypertension et diabète. Donc, c'est les six grandes zones de santé publique là, mm-hmm. qui posent problème. Donc, ce sont les six sur lesquels on s'est penché ici.
Et en même temps, ce qu'on apprend à travers l'étude, c'est que ces six maladies-là ont un impact, un coût financier pour la population énorme. On parle de 8,1 milliards de dollars. Ça, c'est en 2013, en ce qui a trait à tous les coûts là, entourant ces maladies-là, que ce soit les traitements ou la mort prématurée.
Oui, en fait, c'est un des messages qu'on tente de communiquer de façon à attirer l'attention des décideurs. Encore une fois, toutes les stratégies en prévention et en santé publique, lorsqu'on regarde les budgets de santé, c'est vraiment infime par rapport au budget de la santé. Mm-hmm. C'est important de comprendre qu'à moyen long terme, ces stratégies-là sont payantes, pas seulement sur le plan de la santé publique, parce qu'effectivement, si on réduit le tabagisme, on réduit le cancer du poumon, les chances de maladies cardiaques, donc ça, c'est mesuré. Mais il y a un effet économique. Il y a un effet économique d'abord sur les coûts évités sur le système de santé, donc les frais hospitaliers, médicaments, etc. Mais il y a une autre dimension, c'est là où le Conference Board, dans ses analyses macroéconomiques, peuvent informer le débat. Il y a tout un aspect qui est les coûts indirects, donc les coûts associés aux pertes d'emploi, aux pertes de productivité au travail, la mortalité prématurée aussi. C'est des choses qui se mesurent. Un individu qui décède à 45 ans, par exemple, d'un cancer du poumon, c'est 20 ans de vie active. Si on prend 65 ans comme horizon de vie active, c'est 20 ans de revenus de participation au marché du travail. Donc, tout ça, sur le plan sociétal, ça se mesure et c'est ce qu'on met en lumière.
On parle également dans ce rapport-là de prévention, de pistes d'intervention pour arriver à prévenir ces maladies-là. Par contre, on n'énumère pas nécessairement comment concrètement on pourrait arriver à prévenir.
C'est la grande question. En fait, le tabagisme est souvent pris comme exemple. On prend le taux de tabagisme des années 50-60, qui était près de 50% de la population fumait à l'époque. Maintenant, on est autour de 17% au Québec, en Colombie-Britannique, autour de 12% de la population fume. Donc, il y a quand même un écart là, interprovincial, mais on est quand même venu de loin. C'est une stratégie qui a été à plusieurs égards multifacette, je dirais. Donc, ce n'est pas seulement que le prix des cigarettes, c'est les campagnes de sensibilisation, les changements culturels. Au cours des années, on en est venu collectivement reconnaître les dangers du tabac. On arrive par contre dans des zones plus difficiles des noyaux de fumeurs plus difficiles à cibler et plus difficile de trouver des politiques et des stratégies qui vont permettre de poursuivre sur la lancée qu'on a observée depuis plusieurs années. On pourrait dire la même chose de l'embonpoint, l'excès de poids. Donc, il y a des phénomènes culturels associés à ça. Il y a des phénomènes aussi d'information et qui interpellent des joueurs et des décideurs et des intervenants qui peuvent faire changer les choses qui sont pas nécessairement les joueurs traditionnels. Je pense en particulier aux employeurs qui ont un rôle proactif à jouer dans l'encouragement de saines habitudes de vie.
Et dans ces saines habitudes de vie-là, c'est intéressant d'en parler à travers les facteurs de risque que vous avez énumérés à travers l'étude, à savoir, bon, le tabac, on en a parlé, le tabagisme, mais il y a aussi la faible consommation quotidienne de fruits et légumes, l'inactivité physique, l'embonpoint, l'obésité, hein, tout ça, c'est assez lié, diabète, hypertension artérielle également. Et, c'est en lien avec ce qu'on disait, mais je vous cite, Louis Thériault, l'analyse démontre combien il est important d'investir dans les interventions de prévention. Donc, j'y reviens. Et bien sûr, on aura l'œil là-dessus pour voir comment ça va s'articuler, tout ça. Est-ce que ce rapport-là, il est disponible pour le grand public?
Oui, certainement. On a un site, en fait, un plan de recherche au Conference Board sous l'égide de ce qu'on appelle l'Alliance canadienne pour les soins de santé durables. En anglais, c'est le Canadian Alliance for Sustainable Healthcare, CASHC. Donc, on l'a en français et en anglais. Et ce rapport-ci en particulier, il est en français sur le site et disponible au grand public.
On mettra le lien sur notre site. Améliorer les habitudes de vie, des retombées importantes pour la santé et l'économie du Québec. Louis Thériault, merci beaucoup. Ça a été un plaisir. Et ce n'était pas un mandat facile de vulgariser cette grande étude-là.
Oui, il y a beaucoup de choses. C'est très technique, mais en même temps, il y a un appel aux décideurs afin d'agir de façon stratégique sur les activités de prévention qui je dirais, le mal-aimé. Oui. Tout le monde en parle.
Mais merci de l'avoir partagé avec nous. Merci beaucoup.
Effectivement. Au revoir.
Au revoir. Merci, Jean-Sébastien. On se retrouve demain, nous. Bye.